Ce matin, pour prendre la place de Pierre, c'est Jean-Pascal Pili, c'est ça? Pilou, voilà. Pardon. Qui est la présidente du groupe Gédéon de Nice. Et donc, pour commencer, il va présenter un peu son travail, le travail des Gédéon. Et après, on va avoir plus de louanges, c'est pas fini. Et après, Jean-Pascal va partager la parole avec nous. Donc, venez.
Voilà, bonjour à tous, à toutes. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous cette matinée. Et je vous remercie de m'accueillir et d'accueillir au travers de moi l'association des Gédéons. Je crois que vous connaissez bien. Hein, il y en a déjà eu plusieurs personnes des Gédéons sont déjà venues présenter un peu ce ministère, mais je crois que c'est bien de pouvoir renouveler et rappeler ce qui se fait pour la gloire du Seigneur, bien sûr. Maman, maman, regarde, on m'a donné ça à la sortie du collège. La maman voit son fils revenir en effet du collège avec ce petit Nouveau Testament. Et quand elle voit ça, Nouveau Testament, oh là là, qu'est-ce que c'est ça, Gédéon, c'est quoi cette secte encore? C'est pas possible. Et la maman de confisquer en vitesse ce livre et de dire, je veux pas que tu gardes ces choses-là. Voilà. Et puis la maman s'inquiète, elle se dit, et ces gens-là qui sont venus distribuer ça à la sortie de l'école, ils risquent de revenir. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Et elle se met à lire, en cachette, ce Nouveau Testament. Elle se rend compte que c'est tout simplement un Nouveau Testament, que c'est la parole de Dieu qu'elle n'avait jamais lue. Elle commence à la lire. Elle est touchée. Elle se convertit. Alléluia. Elle se convertit. Et dans ce témoignage qui nous a été rapporté, eh bien, sa sœur et sa fille font de même. Je crois que le Seigneur est tout puissant pour venir parler au cœur. Et sa parole, elle est là pour parler au cœur. Sans aucun doute, Dieu est grand et il nous aime. Parfois, on se sent un peu dépassé par la tâche, je ne sais pas pour vous, hein, de pouvoir évangéliser, amener les gens au Seigneur. Mais on se rend compte que simplement la parole peut faire son œuvre dans les cœurs. Gédéon lui-même disait « Ah mon Dieu, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Dieu n'a-t-il pas choisi les choses folles du monde pour confondre les sages? Les choses faibles du monde pour confondre les fortes? La Bible dit « Crois et tu verras la gloire de Dieu. » Et moi je crois que la parole de Dieu, elle peut faire son œuvre sans qu'on ait forcément une action, nous, de notre part, derrière. Les parents de Christina, ils sont portugais d'origine, ils vivaient à Lisbonne, catholiques, non pratiquants. Ils émigrent à Paris et ils vont vivre là sans s'occuper spécialement des choses de Dieu. Lorsque Christina eut 15 ans, elle fréquenta le lycée Condorcet à Paris. Et lors d'une distribution des Gédéons, on lui donnait ce petit Nouveau Testament, elle le refuse, elle dit « Non, non, moi j'en veux pas. » Bon. Et puis, les Gédéons continuent à offrir, et puis un groupe de garçons arrive, et un des garçons prend le Nouveau Testament et dit « Ah, merci, voilà, le cadeau. Okay. » Et puis, un peu plus loin, il se dit « Oh là là, le Nouveau Testament, la Bible, ah non, ça ne m'intéresse pas. Et, Christina, j'ai quelque chose pour toi. » Et là, Christina a été intéressée par le jeune homme. Pas trop par le cadeau, mais si le jeune homme veut lui faire un cadeau, quand même. Hein. Alors du coup, elle accepte le cadeau que lui fait le jeune homme. Et puis elle se met à le lire, elle est touchée dans son cœur. Elle rencontre d'autres chrétiens, elle va dans une église évangélique à Paris. Ses parents se rendent compte de ça. Ils disent « Mais qu'est-ce que c'est? Mais où tu vas? Nous on est des catholiques, il n'est pas question que tu touches à ces choses-là. » Et que tu changes de religion. Et Christina est arrêté dans son élan de découverte de la foi. Mais vous savez, le Seigneur ne renonce jamais à sauver quelqu'un. Et son grand-père à Lisbonne mourut. Christina fut envoyée là-bas pour un long séjour afin de réconforter la grand-mère, qui, elle, fréquentait depuis peu une église évangélique. Et chose étonnante, quand quelques temps plus tard, les parents vont venir à Lisbonne, ils vont arriver pour le baptême de la grand-mère et de la petite fille. Alléluia. Alors ils vont être complètement bouleversés de ce qui se passe. Ce fut un choc pour eux. Ils pleurèrent tous. Et quand ils sont revenus sur Paris, ils vont accompagner leur fille à l'église évangélique où ils se firent tous baptisés par la suite. Christina avait une grande sœur, une sœur aînée, mariée. Furieuse de ce qui se passait dans sa famille, elle coupa les ponts avec celle-ci. Christina et ses parents prièrent pour elle pendant des années. Et lorsque cette sœur aînée eut un enfant, elle voulut tout de même le montrer à ses parents, se réconcilia avec eux. Et maintenant, elle va aussi au culte. Vous imaginez un Nouveau Testament qui rentre dans un foyer, qui rentre dans une maison. Un Nouveau Testament, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire. Et on a la chance de pouvoir distribuer la parole librement. Dans notre pays, nous avons encore cette liberté de pouvoir offrir les Nouveaux Testaments. Profitons-en. Qui sont les Gédéons? Alors, comme je le disais, vous les connaissez bien. Hein, en tout cas, nous nous unissons pour distribuer gratuitement la parole de Dieu d'une manière massive et pour témoigner dans le seul but d'amener des hommes, des femmes et des jeunes gens à Christ. C'est le seul but. Nous n'avons pas d'église de Gédéon. Nous n'avons pas de rassemblement. Nous ne faisons pas de l'évangélisation. Nous n'avons pas de culte. Chacun vit dans sa communauté, son culte. Mais nous nous retrouvons juste pour distribuer la parole de Dieu. Et ça, c'est une chose assez fantastique. Quand on réalise les difficultés que les églises ont de travailler ensemble, c'est des choses assez étonnantes. Et ces derniers temps, nous étions à Toulouse pour un congrès national et on avait le témoignage de pasteurs qui disaient, mais on avait fait un grand banquet avec les pasteurs et un pasteur qui disait, mais c'est quand même incroyable, vous arrivez à nous réunir, vous arrivez à nous rassembler et on arrive à travailler ensemble au travers de vous. Et ça, je crois que c'est une des grandes bénédictions que Dieu accorde au travers de cette association des Gédéons. Ceux à qui nous offrons les Écritures, ils les acceptent, ils les refusent. Après ça, ça les regarde, hein. Ils le lisent, ils ne le lisent pas. Nous, on n'a rien à faire, si ce n'est quand même une chose, de prier. Et on prie. On a des réunions de prière régulières. Et on aime à prier pour cela. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça aussi que souvent, nous vous associons, on demande aux églises de s'associer dans la prière pour ces choses. Nos sphères de distribution, eh bien, elles sont très précises. Nous avons les étudiants. Cette année, 7 universités ont pu être faites et ainsi 1400 étudiants ont eu la Bible en main. 17 collèges et lycées et aussi le salon de l'étudiant à Nice ont permis à 4778 Nouveaux Testaments d'être offerts. Les chiffres sont précis. Pourquoi ? Parce que nous essayons de gérer au mieux ces Nouveaux Testaments. Si nous les avons, c'est vrai que nous, en tant que Gédéon, on se donne, mais aussi nous gérons ce que les églises peuvent nous donner, tout moyen par lesquels nous pouvons permettre l'impression des Écritures. Alors, on comptabilise et on essaie de voir vraiment où vont nos Nouveaux Testaments. Elles ne sont pas distribuées dans les églises. On ne donne pas de Nouveau Testament aux chrétiens, parce que vous avez vos librairies, vous avez ce qu'il faut. Hein. C'est vraiment fait pour les offrir à l'extérieur et on essaye d'être le plus précis dans ce domaine-là. Le personnel médical aussi, docteurs, salles d'attente, congrès médicaux, concours d'infirmières, ce sont nos sœurs qui s'en occupent de cela. Et elles offrent des petits nouveaux testaments blancs comme ceci aux médecins et des nouveaux testaments comme ceci dans les salles d'attente. Cette année, il y a eu 200 salles d'attente, 201 exactement, 201 salles d'attente qui ont été pourvues en nouveaux testaments comme ceci. Et de nombreux nouveaux testaments, 1444 nouveaux testaments ont pu être offerts à du personnel médical. Elles ne sont pas nombreuses, vous savez, à les distribuer, hein. Elles ne sont pas nombreuses. Mais quel beau travail. Et je suis sûr qu'un jour, là-haut, dans le ciel, on reverra ces choses-là. On reverra ces choses-là. Notre association est internationale. Elle existe dans 194 pays, au jour d'aujourd'hui. Alors, je sais que vous êtes assez international aussi, hein. Je vois ces grandes maps monde et tout, ça fait plaisir. On ne vit pas sur notre... Hein, sur nous-mêmes, on reste ouvert vers l'extérieur, on aime s'ouvrir à l'extérieur. Et rien que l'an dernier, les Gédéons, l'association a distribué 79 millions d'exemplaires des Écritures dans des endroits où il se peut que les églises, les missionnaires et autres ministères ne puissent pas aller. L'un de ces endroits, c'est l'Égypte. On n'imagine pas comme ça parfois, hein, mais... Bon, l'Égypte, hein. L'Égypte, un pays dont on entend pas mal parler ces derniers temps. Depuis que le ministère Gédéon a été organisé en Égypte, c'était en 1975, plus de 2 millions d'écritures y ont été distribuées. Il y a en Égypte plus de 800 Gédéons. Vous voyez, des hommes, des femmes qui aiment le Seigneur, nés de nouveau, et qui vont distribuer la parole de Dieu. Dans un pays où ça nous paraît si difficile. Après une distribution dans une prison par des Gédéons égyptiens, le siège international a reçu une lettre manuscrite signée par 14 personnes originaires de 7 pays différents et qui disait comment la vie de chacun avait été transformée par la puissance de Jésus-Christ. Et voici ce qu'ils ont écrit. « Les Bibles que vous nous avez distribuées nous aident beaucoup. » Nous sommes arrivés en prison pour payer pour nos crimes, mais nous avons trouvé une liberté qui est meilleure que la liberté physique. Nous sommes libérés des liens de Satan et du péché. Nous connaissons Christ maintenant et depuis nous savons que nous avons été pardonnés de nos péchés. La joie que nous connaissons maintenant dans le Seigneur est tout à fait incommensurable. Ils ont écrit pour nous dire qu'ils priaient pour nous, pour partager ce qui leur était arrivé, après qu'ils aient reçu ces Bibles, et pour demander que des Bibles soient données aux détenus des autres prisons pour que ceux-ci puissent partager aussi la joie qu'ils ont trouvée en Christ. Dans le monde entier, Dieu agit. Hein, la Bible nous le dit. Dans le monde entier, Dieu agit. Un autre créneau de nos distributions très important, ce sont les autels. Et ça a commencé d'ailleurs par ça, dans le ministère des Gédéons. Peut-être connaissez-vous ce témoignage de cette femme haïtienne. Oh, elle a une belle voix, à 18 ans, elle chante, et voilà. Elle a une très belle voix, et elle va faire des études dans la musique, et elle va chanter dans les cabarets, et elle va monter un peu à se faire connaître. Et puis... Elle étude, concert, vit la nuit, les hôtels, presque à nouveau chaque soir, l'alcool, la drogue, le succès. Voilà que dans son cœur, elle sent que c'est une chute libre de plus en plus, elle sent le vide. Alors elle se pose de plus en plus de questions sur la réalité de sa vie. Une nuit après un concert et sans doute après avoir beaucoup bu avec ses amis, elle appelle Dieu au secours. Dieu lui répond. Dieu lui répond. Quelques instants plus tard, en effet, en ouvrant le tiroir de la table de nuit de son hôtel, elle trouve une Bible trilingue comme celle-ci. Elle se met à la dévorer pendant toute la nuit. À la suite de cela, elle a décidé de donner sa vie au Seigneur. Mais elle continue à chanter pour le monde. Elle continue. Mais dans son cœur, quelque chose s'est fait. Elle se sentait toujours mal dans sa peau. Et un jour, le Seigneur va lui dire qu'il faut qu'elle choisisse. Et elle va choisir. Elle va choisir de suivre le Seigneur. Elle va se décider et de mettre sa voix uniquement au service de Dieu, Maggie Blanchard. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être pas, mais elle chante des superbes chants de gospel. Il m'a libéré, Dieu m'a libéré. Et elle touche, et elle est venue déjà plusieurs fois dans la région, et à chaque fois que je l'ai entendue rendre son témoignage, elle parlait de cette période où, dans une chambre d'hôtel, elle avait trouvé ce Nouveau Testament. Vous savez, un grain en donne 100, un autre grain en donne 1000. Le Seigneur peut faire vraiment des œuvres merveilleuses au travers de sa parole. Et cette jeune femme, eh bien, touche beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, et les attire au Seigneur. Il y aurait tant de témoignages à apporter, mais je vois, c'est bien, il y a une pendule qui est juste là. Hein. Voilà, j'avais d'autres témoignages, un suicide qui a été évité, un Nîmes dont on nous a raconté. Je pourrais parler même de ma propre expérience. Moi, je n'ai pas toujours été comme je suis aujourd'hui. Et il fut une époque où je vivais dans une maison abandonnée, dans l'arrière-pays, au chemin du paradis, côté de Bar-sur-Loup. J'étais en recherche spirituelle. Mais ma recherche ne se faisait pas du côté du Seigneur Jésus. Je suis parti en Inde, je suis parti dans le Sikkim. Et c'est dans le Sikkim, dans un monastère tibétain, qu'un petit Nouveau Testament comme ça m'a été donné. Enfin, a été donné à mon amie, qui, elle, était liée par des puissances des ténèbres qui la dévoraient. Elle a été obligée de rentrer en rapatriation sanitaire. Mais c'est là-bas. Dans un monastère tibétain, dans le Sikkim, un pays où les Européens ne pouvaient pas y aller. Moi, j'y suis allé parce qu'on était une délégation particulière pour la crémation du grand maître Karmapa, dont la réincarnation. Enfin bon, je passe. Je passe. Mais ça a été un des maillons, un des gros maillons, qui nous a fait découvrir que Jésus-Christ était vivant. Et quand après, en revenant en France, on a voulu faire... essayer de comprendre ce qui se passait, eh bien, ce Nouveau Testament nous a amenés à reconsidérer notre vision de Jésus, notre manière d'aborder la foi chrétienne. Et puis, le Seigneur a fait le reste, et il a su nous convaincre, il a su nous ramener sur le bon chemin. Alléluia! Alors, comment... Voilà, je vais arrêter là. Hein. Peut-être vous avez envie, vous, de participer à ce genre de service. Alors, bien sûr, la distribution, vous pouvez le faire vous-même, hein. Vous avez des Nouveaux Testaments sûrement dans votre église, n'hésitez pas à en donner à ceux qui vous entourent. Il n'y a pas besoin forcément de beaucoup parler, vous savez, on donne un Nouveau Testament. Et puis Dieu fait le reste, il faut prier bien sûr, hein, il faut tenir ces choses-là dans la prière. Maintenant, si au niveau de l'association, vous avez envie de nous rejoindre, eh bien vous en parlez avec votre pasteur, Pierre Petrignani, et puis vous voyez avec lui. Nous, on a besoin de bras, on a besoin de bras. Vous savez, c'est une région où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôtels. Et on est malheureusement trop peu nombreux, hein, pour y aller vraiment. Il y a beaucoup d'étudiants. Et on ne fait pas tous les collèges, on ne fait pas tous les lycées, on ne fait pas tout ça. Ça va quand même de Menton jusqu'à Fréjus. Vous imaginez, notre territoire, il est grand. Hein, il y a beaucoup de choses. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez m'en parler. Mais bon, il y a des critères quand même un peu particuliers, hein, faut être bien engagé dans son église, avoir un bon témoignage, enfin voilà, il y a plusieurs choses. Mais... Et puis bien sûr, c'est en accord avec votre pasteur. Sinon, vous pouvez prier, bien sûr. J'essaye de donner régulièrement, une fois par mois à peu près, des nouvelles. Là, ça fait un petit moment que je n'en ai pas donné, ça ne saurait tarder. Mais pensez à nous dans vos prières. Pensez à ce groupe des Gédéon qui essaye de distribuer régulièrement. Hein. On va bientôt faire le bac. Pensez à nous pour le bac, lundi prochain. Hein, il va y avoir plusieurs équipes qui vont aller distribuer. Vous pouvez aussi participer financièrement si vous en avez le désir. Ça, c'est toujours bienvenu. Sachez que pour nous, un Nouveau Testament comme ceci, il nous faut 1 euro. Et tous les dons qui nous sont faits par les églises, vont directement à l'impression des Écritures. Directement à l'impression des Écritures. Au niveau de l'association, nous sommes tous des bénévoles. Au niveau de l'association, tout ce qui peut y avoir besoin comme finance tourne autour des cotisations des membres. Mais tous les dons, par contre, vont directement à l'impression des Écritures. Alors, merci si vous pouvez participer. Puis il y a encore un autre moyen auxquels vous pouvez participer. Si vous partez en vacances, que vous allez dans un hôtel, regardez s'il y en a un comme ça, là, un Nouveau Testament. S'il y en a un, dites à l'hôtelier combien ça vous a fait plaisir de trouver ça dans votre chambre. Et s'il n'y en a pas, dites à l'hôtelier combien vous êtes consterné qu'il n'y en ait pas. Dans les bons hôtels, pourtant, à chaque fois, j'en ai vu. Je sais que dans les bons hôtels, il y en a. Alors, vous devriez faire un effort. Essayez. Je vous le dis, ça marche. Ça marche. Moi, en Antibes, il y a eu des hôtels qui m'ont appelé parce qu'il y a eu des Anglais qui sont passés à l'hôtel One Star. Et on ne savait pas que c'était important pour nos clients. N'hésitez pas. Hein? Et puis, s'ils vous disent « Ah, mais non, ce n'est pas possible, vous savez, nous, voilà. » Bon, d'accord. Une autre personne passera derrière et dira la même chose. Et au bout de 2-3 fois, ils vont changer d'avis. Hein? N'hésitez pas. Voilà, différents moyens pour nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse continuer le culte maintenant. Je vous propose de faire une lecture dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà notre lecture. On reprend juste ce verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Voilà, je crois que c'est notre aspiration à tous, de marcher comme des enfants de lumière. Et je crois qu'il doit y avoir une différence entre marcher comme le monde marche et marcher comme des enfants de lumière. Croyez-vous déjà qu'il y ait une différence entre vivre avec Dieu et vivre sans Dieu ? Est-ce qu'il y a une différence ? Y a-t-il une différence ? Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, ça réagit un petit peu, mais... Oui, il y a une différence, une énorme différence de vivre avec Dieu ou de vivre sans Dieu. Ici, il nous a été dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Avez-vous conscience que vous êtes lumière dans le Seigneur ? Est-ce que vous pensez que vous allez devenir lumière dans le Seigneur ou vous êtes déjà lumière dans le Seigneur ? La Bible est claire. Nous sommes déjà lumière dans le Seigneur. Nous étions ténèbres, nous sommes lumière. Ah ! Oh ! Ça paraît énorme, ça. Hein ? C'est énorme. J'aimerais parler de l'importance dans nos vies de faire la différence et que nos vies elles-mêmes fassent la différence. Il y a une différence entre vivre avec Dieu et vivre sans Dieu. Elle doit se voir dans nos vies. Nous ne vivons plus pour le monde. Et savoir aussi que quand Dieu honore, il fait la différence. Être différent du monde, je pense que c'est vraiment notre aspiration à tous. On le connaît, ce monde incrédule, ce monde dominé par Satan, ce monde dominé par les fausses doctrines. Que de confusion dans les esprits. On le sait, on en vient de ce monde. Moi, je ne veux plus être dominé par ces choses ou retourner vers la confusion. Je me souviens, quand j'ai commencé à me tourner vers le Seigneur, il y avait une chose que je ne comprenais pas. C'est qu'il y avait une vérité qui me semblait être vraiment vraie Et puis il y avait là une autre vérité qui me semblait être vraiment vraie. Mais ces deux vérités disaient des choses contraires. Et je me disais, mais c'est pas possible. Où est la vérité? Et pourtant, à écouter les uns les autres, la vérité était là, et la vérité était là. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que la vérité, elle n'était pas dans un lieu, elle n'était pas dans un système. Jésus a pu dire, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Et il a pu le prouver en ressuscitant des morts. Il a pu le prouver en intervenant dans les vies et en intervenant encore aujourd'hui. Et il a pu me le prouver. Ce monde dominé par le pouvoir, ce monde dominé par l'argent, par le sexe, par la séduction, on voit bien, c'est de la séduction tout le temps. On le voit au travers de la télé, des médias, de toutes ces affiches. C'est de la séduction, on passe constamment au travers de cela. Eh bien, je ne veux pas être dominé par ces choses. Ce monde dominé par le péché. Ah, nous le connaissons, ce monde. On le sait d'où il... On sait comment ça fonctionne. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce monde dominé par la maladie qui touche tous inexorablement. Nous voulons être différents de ce monde. Nous ne voulons pas être dominés par ce monde. On veut échapper à ce monde. Et nous, nous avons compris une chose. Cette différence, seul Jésus peut l'engendrer dans nos vies. 2 Corinthiens 5, 17. Vous le connaissez par cœur, ce verset, j'espère. Si quelqu'un est en Christ, voilà, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup de gens cherchent à échapper aussi à ce monde. Ils essayent d'en échapper au travers de la drogue, au travers de l'alcool, au travers des religions. Mais ce sont des citernes crevassées. C'est comme de l'eau salée. Vous savez, on a soif, on est là au milieu de la mer. On n'a pas d'eau. Alors on se dit, on va boire un petit peu de l'eau de mer. Mais ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Pour ma part, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'avoir une autre vie, c'est le cas de le dire, où j'ai été épuisé à ces citernes crevassées. Et je puis vous assurer qu'on a toujours soif. On a toujours soif malgré les apparences. Ceux qui cherchent leur avenir, j'étais parti aussi là-dedans, dans l'astrologie, la voyance. Ceux qui veulent connaître leur avenir, ceux qui veulent... Ils ont toujours soif. Vous essayez de deviner ce qui va se passer demain, mais après-demain, alors on va chercher ce qui va se passer après-demain, et après-demain, et il y a une angoisse qui est là. Et combien de gens sont là et cherchent à sortir de ces angoisses? Notre privilège, nous avons la chance de connaître celui qui crée l'homme nouveau. Vous le savez ça? Vous le réalisez ça? Nous connaissons celui qui crée l'homme nouveau, celui qui crée la différence dans nos vies. Et nous ne devons pas avoir de doute là-dessus. Jésus a la puissance de la création. Il est le Créateur. Il est impossible à l'homme, tout ce qui est impossible à l'homme, lui, il peut le faire. Et tout homme a cette aspiration à être changé, à être transformé dans sa vie. Tout homme. Et nous, nous avons le privilège de connaître celui qui peut le faire et qui le fait dans la vie de tous ceux qui se tournent vers lui. Non seulement nous le connaissons, mais nous savons comment il a fait pour créer l'homme nouveau. Comment il a fait pour créer l'homme nouveau? Il est monté à la croix. Il est monté à la croix. Il a payé pour nous. Il a donné sa vie. On sait comment il a fait. Il a pris notre péché. Alléluia. Non seulement nous savons comment il a fait pour créer l'homme nouveau, mais nous reconnaissons aussi le chemin. On en connaît le chemin. La repentance et la foi. Quand on vient au Seigneur, qu'on lui demande pardon pour nos péchés, il est prêt à nous pardonner. Il le fait et il crée l'homme nouveau. La repentance et la foi qui vient là dans nos cœurs, qui vient y habiter. Nous savons comment il a fait, nous connaissons le chemin, et j'espère que pour la majorité d'entre vous, vous en connaissez les conséquences. Les conséquences de cette vie nouvelle, la paix, la joie, la confiance, le pardon, la guérison, la réconciliation. La réconciliation avec Dieu, bien sûr. La réconciliation aussi dans les familles. La vie. Ça, c'est toutes les conséquences que le Seigneur met dans nos vies. La vie en abondance. Nous avons tous vécu cela, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime ce verset. J'aime réaliser ces choses-là. Et ce matin, je ne vous apprends rien de nouveau, mais je veux vous rappeler ces choses, car elles sont déjà là. Elles sont en chacun de nous. Et ce que je voudrais que vous réalisiez, c'est que c'est notre prise de conscience de ces choses qui va concrétiser cette différence dans nos vies. C'est la prise de conscience de ces choses que Dieu a fait dans nos vies, qui vont permettre à la différence de se manifester. Dieu t'a choisi. Tu le sais, ça? Dieu t'a choisi. Jésus a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dieu t'a choisi. Tu as simplement répondu à son appel, alors que d'autres n'y ont pas répondu. Il y en avait d'autres aussi qu'il a choisi, mais ils n'ont pas répondu à l'appel. Dieu t'a choisi et tu vas porter du fruit. Si tu es conscient que Dieu t'a choisi, si tu es conscient que, si tu réalises vraiment qu'en effet Dieu t'a choisi, eh bien, tu vas pouvoir agir en conséquence. Oui, tu es différent. Ce n'est pas possible autrement. Si tu ne réalises pas qu'il y a une différence entre toi et le monde, entre toi, ce que tu vis et ce que vit le monde, alors peut-être... qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, que tu n'es pas né de nouveau, comme nous l'enseigne la Bible. Mais dans ce cas, c'est pas grave. Tu peux le faire ce matin. Ça peut se faire ce matin. Donner son cœur au Seigneur et dire, bon, eh bien, moi, cette différence, elle n'est pas là dans ma vie. Alors pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes péchés. Et puis alors viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Je veux pas que ce soit juste comme ça, me faire du bien en venant à l'église, dans une belle communauté, avec une belle philosophie. Mais viens habiter dans ma vie et viens changer tout ça. Gédéon n'était pas conscient de son appel. Et pourtant, Dieu savait qu'il était différent. Gédéon faisait partie du peuple de Dieu, comme tu en fais partie. Gédéon savait qu'il faisait partie de ce peuple, mais il était tellement étouffé par l'ambiance, par l'état d'esprit ambiant, par ses persécutions. Par contre, quand Gédéon va prendre conscience de sa différence, au travers de différents moyens, quand il va demander à Dieu, ça va être au travers de paroles prophétiques, ça va être au travers de de cette toison qu'il va mettre, ça va être au travers de différentes choses. Quand il va prendre conscience de sa différence, alors tout va changer dans son attitude. Tout va changer. Il va revêtir véritablement l'homme nouveau. Et alors il va devenir un leader, il va devenir un chef, un homme de Dieu. Élie était de la même nature que nous, nous dit la Bible. De la même nature. Aussi faible, aussi incapable. Mais Élie avait conscience que son Dieu était vraiment différent du Dieu de ceux qui l'entouraient. Et Élie, ayant conscience de cette différence, eh bien, il va prier et il va s'attendre à ce que Dieu agisse. Et il va voir Dieu agir. La prise de conscience de notre différence nous pousse à l'action. Et c'est ça le secret de la différence, de faire la différence. C'est d'abord de prendre conscience de ce que Dieu a accompli, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu nous a donné et qui nous appartient déjà. Tout a été accompli à la croix. Tout est accompli à la croix. Et nous, notre part, c'est de prendre conscience de ces choses-là. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 16, il est dit « Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Pourquoi ? Pourquoi la parole de Christ doit demeurer en nous dans toute sa richesse? Pourquoi doit-on s'exhorter? Pourquoi doit-on s'instruire? Pourquoi doit-on chanter des psaumes, des hymnes? Moi, je crois que quand on chante, comme on l'a fait tout à l'heure, on confesse la grandeur de Dieu. Et notre esprit s'ouvre à cette prise de conscience de ce qu'est Dieu. On le sait, notre Dieu est grand. Mais quand je dis « Seigneur, combien tu es grand, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, et que je le chante de tout mon cœur, mais ce sont des choses qui viennent là dans mon âme, qui se prennent place. Quand je chante ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, je sais que Dieu est toujours présent et de partout, mais quand je suis là en train de le chanter de tout mon cœur, alors mon être entier est en train de prendre conscience de la présence de Dieu, de sa puissance. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est au-delà de mon être, de mon intelligence, de mes capacités. Ce n'est plus moi qui agis. Et Dieu va pouvoir agir. Dieu est heureux quand il voit la foi dans un cœur. Mais c'est quoi cette foi? Il y a tant de gens qui pensent croire en Dieu. Je crois que cette foi, c'est quand elle est là, qu'elle est vivante, qu'elle est vibrante en nous. Quand on en a pris pleinement conscience, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand on lit la parole de Dieu, on prend conscience aussi de ce que Dieu dit. On comprend, on connaît l'histoire biblique, on connaît la pensée de Dieu. Mais quand on relit les Écritures, eh bien, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et on prend conscience de ce que Dieu dit, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu est prêt à faire. Et parfois, on reçoit comme ça une parole qui vient s'ancrer dans notre cœur, dans notre vie, et qui nous pousse à aller de l'avant. Ésaïe pouvait dire « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ésaïe aimait bien, là, écouter la parole de Dieu dès le matin. Il savait que c'était ça, il le connaissait son Dieu, mais pourquoi aller tous les matins, aller écouter Dieu, aller écouter la parole de Dieu? Parce que au-delà de notre intelligence, il y a une prise de conscience qui s'intègre dans notre vie, qui vient prendre place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est pas qu'avec la tête, c'est pas qu'avec des sentiments. C'est tout notre être entier qui doit prendre possession de cet amour et de cette conscience. Et puis, quand je réalise que Dieu parle au travers de sa parole, alors j'ai envie d'aller l'offrir, cette parole aussi. J'ai envie de la donner. Et j'ai confiance quand je dis à quelqu'un que je vois dans la souffrance ou que je vois dans une problématique, mais il y a des solutions là. Va, regarde, observe, lis. Et mon témoignage, ça ne sera pas juste comme ça, une petite pensée, mais il y a quelque chose qui va se communiquer. Parce que la foi, elle se communique, vous savez, comme le rire. Hein, le rire, quelqu'un se met à rire, on ne sait même pas pourquoi il rit, on se met à rire aussi. Mais la foi, ça se communique. Mais encore faut-il que cette foi, elle soit vibrante en nous. Et si cette foi, elle est vibrante dans mon cœur, alors, quand je vais dire, lis là-dedans, lis, tu vas voir, il y a les solutions pour toi. Alors, la personne va être touchée et quelque chose va commencer à se passer dans son cœur. Venir aux réunions de l'Église. Pourquoi ? Je peux avoir ma foi dans mon coin. C'est vrai. On peut avoir sa foi dans son coin. Mais je crois que si le Seigneur nous invite à nous réunir, à nous rassembler, à avoir des cultes ensemble, à le louer tous ensemble, à s'exhorter les uns les autres, comme nous le lisions tout à l'heure, à s'encourager, c'est pour faire grandir notre conscience de sa volonté et pour éveiller notre foi. Heureusement qu'il y a ces réunions. Heureusement qu'il y a ces moments où tout à coup on se pose là et puis on se dit « Allez, stop, ça c'est maintenant, c'est pour le Seigneur. » Et puis tard qu'on est là et on écoute le message de la prédication et on se met à louer le Seigneur avec l'équipe de louanges et on est là avec l'Église, avec les frères, les sœurs. Et puis on prend conscience que Dieu est là. On prend conscience que mes petits soucis, mes petits problèmes, ils sont rien devant la grandeur de Dieu. Et je peux m'attendre à lui, je peux m'attendre à ce qu'il intervienne, je peux m'attendre à ce qu'il agisse. Parce que je prends conscience de ce que je connais. Je connais ces choses, mais je suis en train d'en prendre conscience. Comment avoir une foi agissante si je ne suis pas sûr de ce que Dieu veut ? Et nous voulons tous avoir une foi agissante, n'est-ce pas ? Être efficace dans notre foi. Oh, c'est pas un gros effort de notre part. C'est surtout de faire cet effort de chercher cette prise de conscience de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, et d'utiliser tous les moyens qu'il nous donne pour être conscient. Oui, nous voulons que Dieu fasse la différence. Quand on prie, on veut que Dieu fasse la différence et qu'on voie vraiment Dieu agir, intervenir. Et lui, il attend de voir une différence dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, dans notre manière de prier. Une prise de conscience que ses paroles, que sa parole à lui, elle est créatrice. Elle est oui et amen. Tu veux qu'il te dirige ? Il peut t'indiquer le chemin, il peut te protéger. Je suis persuadé que plusieurs pourraient rendre témoignage de cela, d'avoir vu Dieu agir, Dieu le diriger, Dieu lui montrer le chemin ou fermer des portes. Tu veux qu'il te guérisse ? Il peut agir dans sa souveraineté quand on prend conscience de ce qu'il est. Au-delà de ce qu'on peut être, moi je me souviens, mon frère dans la chair, Dominique il s'appelle, quand j'ai rencontré le Seigneur, il connaissait un petit peu tous mes cheminements, il disait tiens encore un truc, et je les ai invités à aller dans une église sur Paris, et puis mon frère a accepté de venir dans l'église, et puis il est venu un dimanche matin comme ça, à un culte. Il était un petit peu sceptique dans tout ça. Et puis bon, il y a eu un bon message de l'évangile, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Et puis bon, le culte s'est terminé, je me demandais qu'est-ce que ça avait donné. On sort du culte, je lui dis ça va, pas trop, ça va, c'est pas trop perturbé. Non, non, c'est bien, très bien. Bon, très bien. Et puis 15 jours plus tard, c'était ma belle-sœur qui m'appelle, qui me dit « Jean-Pascal, il faut quand même que je te dise. Quand avec Dominique, on est venu là dans l'église, on s'est assis là dans le fond avec toi. Puis, mais Dominique, il est paysagiste, et il avait le genou qui lui faisait terriblement mal, il devait se faire opérer du genou, et il n'arrivait plus à dormir la nuit, ne serait-ce que le drap sur le genou, ça le faisait hurler. Et il me dit « Mais tu sais, on est rentré à la maison, il n'a rien dit, mais moi j'ai bien vu. Et puis la nuit, il a bien dormi. Alors le lendemain matin, je lui ai dit, mais Dominique, qu'est-ce qui t'arrive ? Et Dominique, il dit, bah je sais pas, depuis que je suis allé là-bas, là, il n'y a plus rien. Ah bon ? Alors ils ont attendu 15 jours quand même, hein, pour me le dire, pour m'appeler, pour me dire, Jean-Pascal, tu sais, il s'est quand même passé quelque chose. Hein. Oui, quand on prend conscience de la grandeur de Dieu, quand on prend conscience des choses, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Peut-être tu veux qu'il intervienne dans ta situation familiale. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Là aussi, encore une histoire à dormir debout. J'ai ma nièce, Christina aussi, un peu comme dans le témoignage Gédéon que j'apportais tout à l'heure. Ma nièce, qui est diabétique. Diabétique et donc obligée de se faire des piqûres tous les jours. Et puis j'ai ma belle-sœur portugaise qui me voit et bon, qui me parle un peu de l'histoire et elle me dit, mais tu sais, en plus de ça, Christina, elle s'est mise avec un cousin en plus, elle s'est mise avec un cousin et le cousin se drogue et le cousin il se pique et j'ai vraiment peur pour elle, tu te rends compte, qu'est-ce qu'elle va devenir, ça se trouve elle va se mettre à se droguer, etc. Alors, je lui dis, bah écoute, on peut peut-être demander à Jésus d'intervenir. Et elle s'est mise dans une colère, en disant, oh, mais moi je suis catholique, portugaise, catholique, j'en ai fait des prières. Je dis, bah écoute, très bien, c'est pas un problème, c'est bien. Moi je te propose qu'on demande à Jésus. Bah t'as qu'à le demander à ton Jésus. Bon. J'ai dit, Seigneur, maintenant voilà, c'est de ton côté, hein. Et puis là aussi, quelques temps plus tard, j'ai ma belle-sœur qui m'appelle et puis qui me dit « Jean-Pascal, c'est incroyable. Christina, elle s'est séparée du gars, là, du cousin. Et non seulement elle s'est séparée du cousin, mais elle a trouvé un autre garçon. Mais il est bien, celui-là. Qu'est-ce qu'il est bien, celui-là ? Mais tu sais, je t'appelle parce que, voilà, en plus de ça, le cousin, il s'était mis avec une autre fille. Et... Dans un moment de délire, il a tué l'autre fille. Alors j'ai dit à ma belle-sœur, Jésus, on peut s'attendre à lui. On peut compter sur lui. Alors là, elle n'a pas réagi, là. On peut s'attendre au Seigneur, il est là, il est vivant. Vous étiez autrefois ténèbres, vous êtes aujourd'hui lumière. On a besoin de prendre conscience de tout ce que Dieu nous donne, de tout ce que Dieu fait. Or, parfois, on ne s'en rend pas compte. Si tu veux qu'il intervienne peut-être dans tes finances, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Là aussi, des expériences qu'on pourrait vivre, qu'on pourrait raconter. Je me souviens, quand je suis revenu d'Inde, justement, j'étais endetté, j'avais plus de sous, j'étais vraiment dans le 36e dessous. J'étais démoralisé aussi parce que je n'avais pas trouvé ce que je voulais. Et je revenais d'Inde parce qu'il y avait plein de choses qui m'indiquaient que je devais revenir en France. Bon, enfin voilà. Et mon ami était revenu rapatrié sanitaire à cause des problèmes démoniaques qui s'étaient passés avec un sadhu en Inde. Et j'étais complètement déboussolé. Et c'est là que, au travers de l'évangile,
On a commencé à revenir un peu à la parole de Dieu, et puis on a été invité dans des églises évangéliques, on y a été. Et puis bon, il y a eu tout un processus qui a commencé à se faire. Et je me souviens un jour, j'étais dans ma baraque abandonnée là à Bar-sur-Loup, et puis j'étais là et je disais, si c'est vrai que tu existes, j'ai plus un centime, j'ai des dettes, j'ai plus rien à manger. Eh ben, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. On chantait souvent ça dans l'église à Cannes où j'allais à ce moment-là. Alors, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Alors je compte sur toi. Et puis, bon, je pensais que j'allais trouver un Pascal, parce que c'était avant de l'an 2000, un beau billet là par terre. Puis, non, ça n'a pas été ça du tout. Ça a été des voisins avec qui ont voulu que je leur raconte tous mes périples en Inde, et qui m'ont dit, au fait, Jean-Pascal, nous, on est... Bon, c'était des marchands, des agriculteurs. On termine, là, on a ce midi, on va faire le dernier marché à Bar-sur-Loup. Mais après, on part en vacances. Tu veux pas un cajot de carottes ? Ah ! J'avais dit, mais Seigneur, j'aimerais... C'était pour manger, hein, je l'avais demandé. Ah, j'ai dit, alors du coup, je leur ai raconté un petit peu mon approche du Seigneur. Ils m'ont dit, t'as bien une bêche chez toi ? Bah oui, là-bas, il y a des salades, là-bas, il y a des betteraves, là-bas, il y a des tomates. Hein. Tu viens, tu te sers. Voilà, j'avais tout ce qu'il fallait pour le temps que je voulais. Mais le Seigneur est bon, vous savez, il agit pas toujours comme on veut. Pas toujours comme on veut. Jésus a dit à ses disciples, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jésus voulait qu'ils prennent vraiment conscience. Ses disciples, qui pourtant connaissaient déjà beaucoup de choses, mais il voulait qu'ils prennent vraiment conscience que tout était possible en son nom. Que tout était possible. Alors nous allons voir la différence, n'est-ce pas ? Les choses se font pas forcément tout de suite. Allez, un dernier petit témoignage, si vous voulez bien. Hein ? Ça va, j'ai le temps, ou c'est bon ? Ouais ? Oh, une dernière chose, une chose qui m'a vraiment bluffé hein, à une époque. Au travers de toutes mes recherches, j'ai côtoyé un homme, Wilfried Chetewi, qui était très âgé. Je faisais du yoga avec sa femme. Et lui, c'est lui qui a initié les festivals de voyance sur Antibes, enfin dans la région. Enfin, il était à l'origine de ces festivals. Et c'était un très grand ami à moi. Et voilà, bon, il y avait des tas de choses qui se passaient. Et puis quand je me suis converti, quand j'ai découvert le Seigneur, la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, que c'était pas bien. Et donc je suis allé le voir, hein, et puis je lui ai dit, tu sais, la voyance, il y a des choses qui vont pas, tu sais. Enfin bon, j'ai essayé de lui parler. Et alors au départ, il était intéressé par ma nouvelle vision des choses. Et puis au bout d'un moment, il a commencé à se fâcher. Et puis à un moment, il y a sa femme qui est venue parce qu'elle l'entendait hurler, crier. Il était là avec la Bible en train de déchirer les morceaux et de dire « Mais j'en ai rien à foutre de ça, tu te rends pas compte ?» Mais vraiment, une réaction. Et bon, j'étais désolé parce que vraiment, ça réagissait très mal. Alors je lui avais dit « Mais tu verras, quand tu vas au festival de voyance, quand ça va commencer ?» Au moment où ils commencent leur truc, eh bien tu dis au nom de Jésus que ça s'arrête, au nom de Jésus, et tu verras, ça s'arrêtera. Bon, j'étais peut-être un petit peu, voilà, mais bon, vous voyez, un peu fou, mais voilà. Figurez-vous que, à peu près 4-5 ans plus tard, on avait ouvert un café-bar à Antibes, et on accueillait des marginaux, et puis il y avait un gars qui sortait du bouddhisme, qui est venu. Et puis bon, on a discuté avec lui et il venait de découvrir en effet la foi. Et puis à un moment, je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais on est venu à parler de ce Wilfried Chetewi. Il me dit « Ah, mais tu sais qu'il est décédé ?»« Ah non, je ne savais pas. »« Oui, oui, il est décédé. » »« Mais tu sais qu'il y a une chose étonnante quand même. » La dernière année de sa vie, il n'arrêtait pas de lire la Bible. La dernière année de sa vie, il n'arrêtait pas de lire la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. J'espère que je le reverrai là-haut. savez, le Seigneur, il est prêt à pardonner. Alléluia. Il est là. Prenons conscience de sa capacité d'intervenir, d'agir dans nos vies, avec nos vies. Nous, on n'est rien, mais lui, il est tout. Et si je prends conscience, en effet, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, elle peut tout faire. Amen. Amen. On va prier. Vous voulez bien ? Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Nous voulons te bénir, en effet, Seigneur. Tu es si grand, si merveilleux. Tu es si glorieux, Seigneur. Je vais te prier, Seigneur, pour toute cette assemblée, pour ses amis, ses frères, ses sœurs, pour cette grande famille que nous formons. Un jour, nous serons là-haut dans le ciel à nous réjouir au banquet, aux noces de l'agneau. Un jour, nous serons là-haut à nous réjouir de tout ce que tu as fait. Nous réaliserons tout ce que tu as fait au travers de chacune de nos vies. Je te prie de nous aider, Seigneur, à être conscients de ce que tu peux faire, de ce que tu veux faire au travers de nos vies. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les expériences que tu nous as permis à chacun d'entre nous de faire, déjà individuellement. Mais je sais que tu as encore bien des projets. Tu nous as choisis chacun d'entre nous. Aide-nous à être vraiment ces bons témoins de ton amour, de ta puissance, de ta présence dans nos vies. Merci Seigneur, bénis cette assemblée Seigneur. Bénis le pasteur, Seigneur, Pierre, Petranini. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont là et qui veulent voir ta gloire, mon Dieu. Oh oui, Seigneur, fais la différence. Fais la différence au travers de nos vies. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.